Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Et il est 17h03 sur Sud Radio, les vraies voix de l'actualité, des débats. Bienvenue à vous qui nous écoutez. Les vraies voix, vous le savez, hein, c'est jusqu'à 19h. 2 heures d'actualité, débat avec le magistrat honoraire. Philippe Bilger qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Il n'est pas accompagné de son roman judiciaire, non, il l'a laissé chez lui, 72 voilà. heures, réédité en
Merci
poche, voilà,
Philippe.
Pour vous accompagner durant les vacances. Le livre de Nicolas Corato qui est avec nous, c'est Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, c'est aux éditions Eridium. Voilà, Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion politique Place de la République. Bonsoir Nicolas,
bonsoir,
tout va bien
Philippe, bonsoir à toutes et à tous.
Bon, prêt pour les grandes annonces à 20h, oui.
Mais
oui.
comme tout le monde.
Mais comme tout le monde, ben oui. Véronique Langlais, avec nous, elle lit le Figaro économique.
Elle est gentille, elle
n'a pas écrit de livre encore.
Non, pas encore, vous y pensez ou pas? Vous pourriez faire un livre, roman,
je pourrais faire un recueil de...
De citations, de poèmes, de...
De poèmes.
De poèmes,
ah, oui.
Bah, écoutez, il n'y a pas de souci. Et vous êtes bouchère, je rappelle que vous êtes bouchère, Véronique Langlais, présidente des Bouchers de Paris. Voilà, Véronique Langlais qui est avec nous ce soir. Tiens, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que ce soir on ne serait pas un peu tous italiens?
Ah oui.
Non.
En tout cas, je suis ravi que l'Italie ait gagné.
Bah, l'Italie a gagné, non?
Il le méritait.
Il le méritait, c'est une belle équipe, non?
En plus, même temps, on ne déteste pas les Anglais non plus. Mais ils ont paradoxalement marqué trop tôt. Et donc,
ils ont marqué au bout de 2 minutes, hein, les Anglais.
Oui. Et donc, à partir de là, l'entraîneur, le sélectionneur, a retenu son équipe.
Mais vous n'avez pas l'impression qu'en majorité, les Français penchaient plus pour les Italiens, non, Nicolas?
On a quand même beaucoup plus d'acquaintance avec les Italiens qu'avec les Anglais, sûr. Après, moi, je trouve que c'est une gageure d'être allé gagner à Wembley.
Ouais, c'est vrai.
Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce match, j'y connais rien au foot, mais j'étais quand même sidéré par l'ambiance dans les tribunes. Et je me dis quand même, faire des tirs au but quand on est italien face à des Anglais et à un stade quasiment
plein,
anglais
ouais.
qui hurle, qui siffle, enfin, il faut quand même garder la tête froide. Et moi, je trouve qu'ils ont été très impressionnants.
Et le comble, Nicolas et Philippe, si vous permettez, c'est que les deux gardiens ont été très bons, ils ont arrêté, mais ce sont les joueurs choisis
qui ont raté, évidemment. Tiens, vous avez regardé le match, Véronique?
Évidemment, moi je regarde tous les matchs.
Ouais, c'est vrai.
J'adore le foot. Hein, et d'ailleurs, j'avais prédit les
la
tirs
victoire
au but.
De l'Italie. Ah,
non, les tirs au but. Dès le départ. En fait, quand
vous pariez
avez...
ou pas, vous? Est-ce que vous savez que les jeunes ont beaucoup parié pour cet euro?
Je suis anti-pari parce que j'ai peur à l'addiction.
Ah oui, oui. Bon, une fois tous les 4 ans quand même.
Pas.
Bon, oui. Très bien. Elle est raisonnable, Véronique. Allez, je vous donne le programme des vraies voix, notre grand débat. Tout d'abord, à 18h30, on en a parlé, les annonces d'Emmanuel Macron. À suivre d'ailleurs à 20h en direct sur Sud Radio. On sera là, les vraies voix, pour commenter ces annonces avec vous d'ailleurs, au 0826-300-300. Alors, le chef de l'État, on le sait tous, qui pourrait annoncer la vaccination obligatoire pour les soignants, un pass sanitaire étendu peut-être au cinéma, aux salles de sport, au restaurant, c'est le cas au Portugal. On verra ce que va décider Emmanuel Macron. Par exemple, François Bayrou, lui, proche du chef de l'État, a plaidé pour ce pass sanitaire. Mais plus que ça, il a même plaidé pour la vaccination obligatoire pour tous. François Bayrou, l'Académie de médecine qui y est favorable. Le chef de l'État ce soir, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit convaincre les Français à se faire vacciner? Ou bien est-ce qu'il doit les forcer? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous votez sur Twitter et YouTube et puis vous nous appelez pour réagir. 0826-300-300. Également au programme des vraies voix, ce drame, Théo, 18 ans, poignardé à mort pour une facture télécom. Le jeune vendeur a été attaqué au couteau. Ça s'est passé dans sa boutique, dans un centre commercial en Seine-et-Marne. L'escalade de la violence vous inquiète-t-elle? On reviendra sur les propos de l'acteur Pio Marmaille au Festival de Cannes qui veut, je le cite, péter la gueule à Emmanuel Macron. On va y revenir. Est-ce que cette phrase a été sortie de son contexte, comme le dit l'acteur? On va réécouter l'extrait, évidemment, et on va en débattre. Et puis, en fin d'émission, nous irons aux Francofolies de La Rochelle rejoindre notre ami Yvan Cujus. Ce soir, c'est Francis Cabrel qui fait un show accompagné de Jane Birkin. Ce sera vers 18h45. Mais pour l'heure, voici le tour de table de l'actualité.
Les vraies voix Sud Radio.
Avec Philippe Bilger, l'Euro de foot, donc on y revient Philippe, et après leur défaite en finale, des joueurs anglais ont été visés par des insultes racistes.
En effet, Philippe, si vous avez suivi le match, évidemment, vous avez vu que le sélectionneur a fait rentrer, à mon avis, techniquement trop tard, mais ça c'est son problème, 3 joueurs, un Saka a fait un quart d'heure avant la fin du match, et les 2 autres, pratiquement à la fin. Et donc, ces trois joueurs ont manqué...
Marcus Rashford et voilà. Jadon Sancho. Voilà.
Absolument, ces trois joueurs ont manqué leur tir au but, ou bien le goal italien formidable les a détournés. Ce qui m'a frappé, c'est d'une part, évidemment, les propos racistes à l'encontre de ces trois joueurs. Ça m'a étonné, mais ça ne m'a pas surpris. Hein. Mmh. Deuxième élément, je voudrais rapporter ça à l'attitude que je trouve toujours extraordinaire des coéquipiers de ceux qui viennent de rater un pénalty. Lorsqu'ils rentrent dans le groupe, ils sont consolés. Oui. Ils sont, mais ça a de la gueule. Moi, je suis un nègre, je dirais, mais vous avez loupé, vous êtes nul, c'est pas possible. Au contraire, ils les dorlotent, ils les consolent. Grande classe. Et troisième élément, et je finis là-dessus, ce qui m'a intéressé, parce que c'est une autre conception du pouvoir, qui est-ce qui a annoncé qu'il y a eu des violences à Wembley après le match, qui est-ce qui a annoncé qu'une enquête allait être ordonnée pour ses propos racistes? Eh bien, c'est la police. Ouais. Et je trouve ça révèle une certaine conception du pouvoir. C'est pas le pouvoir, c'est pas le ministère de l'Intérieur, c'est la police. C'est vraiment une autre conception valable de la démocratie.
Alors, bien sûr, les insultes racistes, c'était alors à l'intérieur du stade, peut-être, mais en tout cas, là, en l'occurrence, c'était sur les réseaux sociaux.
Ouais,
et d'ailleurs, Boris Johnson s'est exprimé. Alors, moi, ça m'a étonné de la part des joueurs anglais. J'aurais pas été surpris de la part des joueurs italiens, Véronique.
Alors, moi, je vais vous faire une confidence, c'est que je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit, au contraire. Et c'est ce que je me suis dit intimement. Je me suis dit, à tous les coups, on va avoir droit des propos racistes. Parce qu'on a une minorité très présente sur les réseaux sociaux qui ne joue qu'à ça, à longueur de journée. Et ça finit que ça devient prégnant, y compris dans la société, que tout ce qui est fait sur les réseaux sociaux maintenant, on le retrouve aussi dans la vraie vie. Et c'est ça que je trouve déplorable. Et c'est ça qu'il faut combattre, en fait.
Ouais. Ça a un peu gâché la finale, hein, Nicolas.
Oui, mais cette Euro, elle a fini là où elle avait commencé aussi. Souvenez-vous, tous les débats qu'on a eus sur les joueurs qui voulaient sensibiliser et la manière dont les joueurs voulaient sensibiliser
le
public par rapport aux problèmes de racisme, notamment dans leur sport.
Ouais.
Finalement, cet épilogue prouve que, je ne sais pas si sur la forme, mais sur le fond, ils avaient raison. Et je me souviens aussi quand même des cris qui ont été soulevés et relevés par les joueurs français, par exemple, dans le stade de Budapest, là où ils ont joué, les cris de singe quand les joueurs de couleur de l'équipe de France prenaient le ballon, etc. Je pense que ce sport, il a quand même un problème avec le racisme qui est multinational.
Non, avec les discriminations, si je puis me dire.
Je pense que c'est du racisme.
C'est vrai.
Quand on imite un singe, un joueur noir prend, pour moi, ça c'est du racisme. C'est pas de la discrimination. Et je pense que justement dans ce sport, on peut pas dire que les joueurs de couleur soient discriminés. En revanche, il y a un vrai racisme qui s'exprime de la part de certains supporters, peut-être minoritaires, et je l'espère minoritaires. Moi je fais pas de généralisation, mais je pense qu'il faut reprendre ça par rapport au débat qu'on a eu au début de cet Euro. Et je me dis que les joueurs de toute nation d'ailleurs, qui avaient envie de marquer le coup par rapport aux problèmes de racisme dans leur sport, avaient sans doute raison.
C'est d'autant plus surprenant que Rashford est un footballeur très admiré en Grande-Bretagne pour son œuvre humanitaire. Il a fait plier Boris Johnson.
C'est vrai,
Et donc Mbappé, lorsqu'il a raté le pénalty, il a été insulté. C'est pareil.
Oui. Ça doit être des supporters très minoritaires, mais puisqu'ils sont présents dans le stade, évidemment, ça gâche la fête, ça se retrouve sur les réseaux sociaux, dans les médias.
Il y a aussi la problématique
la discrimination, du racisme.
Des gays, parce que il y a aussi cette problématique-là où on insulte son prochain. Enfin, je ne donnerai pas les noms, mais...
Alors, vous êtes d'accord avec Nicolas, c'est du racisme plutôt, non? Plutôt que de la discrimination. Des cris de singe, c'est du racisme, non?
Mais je parle de toutes les problématiques qui ressortent dans ce monde du football.
Ouais. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire?
De la pédagogie.
Comment on va savoir si un supporter qui rentre dans le stade serait susceptible
Et on peut faire évoluer les mentalités. Je pense que les joueurs qui ont montré
à ce niveau-là,
font énormément évoluer les mentalités. Je veux dire, quand Griezmann parle de l'homosexualité, je pense qu'il fait plus évoluer les mentalités que 15 ans de spot de pub, de campagne publique sur le sujet. Quand Mbappé ou quand d'autres parlent du racisme, je pense qu'ils font évoluer les mentalités. Ouais. Donc c'est aussi ça. Et d'ailleurs, la réaction des journalistes, la réaction des joueurs de l'équipe d'Angleterre hier notamment était très intéressante. Elle a été, comme le disait Philippe, unanime. C'est-à-dire que ce sujet n'est pas le sujet uniquement de ceux qui ont été insultés. Ça devient le problème d'une équipe, voire même d'une nation, et ça devient un problème national. Moi, je trouve ça plutôt vertueux.
Alors Nicolas Griezmann, j'ai une dent parce que il faut aussi que lui-même, donnant des leçons de morale, ne se moque pas des Asiatiques.
Oui, hein. C'est vrai.
Oui. Bon.
Mais
bon,
ouais, on a bon. Pas le
il a dérapé,
Non, non, mais on leur demande beaucoup à ces joueurs de foot. Hein. On leur demande d'être intelligents sur le terrain et d'être
exemplaires.
Nous, on n'est pas intelligents tout le temps.
C'est dramatique quand on veut donner des leçons de morale.
Quand on donne des leçons de morale, il faut être exemplaire. Je suis d'accord avec vous.
C'est pour ça que je n'en donne pas.
Des caméras partout aussi, donc c'est ça aussi le piège.
Aussi. Alors juste une parenthèse et pour finir, pour revenir sur ce que vous avez dit, donc il a raison. Hein. Alors les Italiens, aussi bien que les Italiens que les Anglais, quand ils rataient un penalty, c'est vrai qu'ils étaient accueillis à bras ouverts par les joueurs.
Beau.
L'entraîneur aussi qui venait les conseiller, leur faire une accolade.
Mais ils le font tous, hein, dans toutes les équipes. Mais ça montre que ce sont des vrais sportifs, quoi. C'est-à-dire que au lieu de dire « Ah, il nous a fait louper », non, ils sont conscients de la difficulté de la tâche, surtout après des prolongations. Ils sont fatigués.
Je trouve ça intéressant, au-delà de... Encore une fois, je ne suis pas un passionné de football ni un expert de football, mais ça me fait penser aussi à cette idée que la culture de l'erreur, c'est important. Mmh. Qu'on puisse dire aussi, y compris à des plus jeunes, que ça arrive de rater, ça arrive c'est de se tromper, y compris dans des très grandes occasions, quand on est un très grand joueur, et que le but qu'on ne peut pas rater, il arrive qu'on le rate. Et je pense que c'est aussi une belle leçon d'éducation pour ces jeunes et d'humilité.
Vous trouvez qu'on a été injuste avec l'équipe de France, avec le lendemain de leur défaite, en tout cas la presse étrangère n'a
Philippe,
pas été très tendre en France aussi.
Oui,
hein.
Mais n'empêche que l'équipe de France, elle a gardé son sélectionneur qui avait complètement loupé.
Hein. C'est vrai.
Tout ça a été réglé dans un coin de table entre Le Graët et lui. Moi, je trouve que la méthode est scandaleuse. Le Graët s'est vanté en disant « ça a pris 3 minutes ». Attends, on a le droit de poser le problème du remplacement de Deschamps.
Oui. Bon, en tout cas, il est là jusqu'en 2022. Décembre 2022, la Coupe du Monde au Qatar.
Zidane piétine.
Et Zidane va devoir patienter une petite année et demie.
Voilà.
Allez, on s'arrête quelques minutes. 0826-300-300 pour participer à notre premier débat à Clessouilly en Seine-et-Marne. Un jeune bachelier ce week-end de 18 ans a été poignardé à mort dans sa boutique pour un différend à propos d'une facture. Voilà, une facture Bouygues Télécom, pardon. L'escalade de la violence vous inquiète-t-elle? 0826-300-300. C'est d'ailleurs la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux où vous pouvez voter Twitter, YouTube et Mélodie ce soir qui vous attend au standard 0826-300-300, le standard de Sud Radio. Les vraies voix vous attendent, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Véronique Lenglet, Philippe Bilger, Nicolas Corato. On poursuit le tour de table de l'actualité tout de suite. Eh oui. Ça c'est l'actu qui a interpellé Véronique Lenglet. Mission réussie donc pour Richard Branson, le milliardaire britannique qui a atterri hier soir au Nouveau-Mexique après, on peut le dire, hein, avoir fait une petite virée dans l'espace. Hein. C'est ce qui s'est passé. Ah oui, Véronique.
Alors moi, je voulais plutôt rebondir sur la guerre des étoiles, en fait, qui s'opère entre
Il y en a plusieurs milliardaires.
Richard Branson, qui est comme le patron de Virgin, Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon, et Elon Musk, qui est le PDG de SpaceX et de Tesla. En fait, tous les trois, ils sont sur une espèce de guerre qui est à savoir lequel va s'envoyer en l'air en premier. Il était d'ailleurs prévu que Jeff Bezos s'envole le 20. Pour les étoiles, sauf que finalement c'est Monsieur Richard Branson qui est passé à l'attaque.
Alors lui, Bezos, c'est le 20 juillet. Hein.
Alors ce qu'on se pose comme question, c'est de savoir quel est leur attrait, si c'est un attrait budgétaire ou si c'est un attrait touristique. Mais les trois ont quand même de belles actions à l'avenir, puisqu'il y en a un qui a quand même 600 personnes qui ont fait une réservation, je parle de Virgin, pour accéder à cette guerre, c'est-à-dire, je crois que le billet, ça doit être 200...
C'est 200 000, non ?
Entre 200 et 250 000.
Dans le micro, Véronique, 200 000 euros.
Entre 200 et 250 000 euros pour s'envoyer en l'air. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Richard Branson et Jeff Bezos, c'est juste une dizaine de minutes avec 3 minutes d'apesanteur, alors que pour leur Elon Musk, on est sur un vrai voyage dans les étoiles où on reste sur la spation.
Mais Véronique, j'étais tout à l'heure sur une chaîne et j'ai entendu un grand spécialiste incontesté de tout ça, Michel Chevalet.
Oui.
Il vous rejoint, mais il explique bien la différence entre
les trois voyages.
Branson, qui est un truc purement pour faire un plaisir personnel.
Oui, et rapide.
Dont Bezos, d'ailleurs, conteste qu'il ait été fait dans les règles. Ensuite, il y a Bezos, c'est les 600 personnes, et puis Elon Musk, c'est lui qui va récolter.
Non, je crois que les 600 personnes, c'est Branson.
Bon.
Hein.
Mais en tout cas,
Non, je crois pas.
Bon. Croyez pas ?
Non.
Moi, ce que j'ai compris tout ça, c'est qu'en
c'est un problème de riche, tout ça.
Musk va tout récupérer.
Alors, ouais. Branson, c'était Nicolas. Peut-être, comme vous le dites, envoyé en l'air, mais pas très haut.
Non, à 80 km.
Voilà, qu'il était resté dans la basse stratosphère. Moi, je suis pas Michel Chevalier, mais ce que j'ai compris.
C'est la même chose.
Donc, voilà, donc, premièrement, donc, c'était quand même. Et que ça fait 60 ans qu'on sait faire ça. C'est-à-dire que ce que les techniciens disent, c'est que en termes, il n'y a pas du tout de.
C'est une histoire de coût, quand même.
Même si c'est une histoire du privé, c'est quand même une technologie très connue, très amorti, qui ne nécessite pas de recherche particulière. Donc on est assez sidéré de la manière dont ces milliardaires s'ennuient sur Terre.
Oui, c'est ça.
On a envie de leur dire, mais regardez, il y a encore des choses à découvrir.
Mais surtout,
l'humanité est formidable. Vous savez, il y a Christian Bobin, ce grand poète qui disait, moi, je suis épaté parce que l'autre jour j'ai vu surgir du goudron une marguerite qui avait réussi à développer une énergie quasi atomique pour survivre. Et je pense qu'il devrait lire plus de Bobin et peut-être aller moins dans l'espace. Ça ferait du bien à tout le monde.
Oui, tout à l'heure, Jean-Marie Roire a cité une belle phrase de Chateaubriand qui disait en gros, au lieu d'aller ailleurs, il faudrait voir l'immensité.
Mais après, quand on est milliardaire, on a aussi des envies et des problèmes de milliardaire. Non, on ne sait pas parce qu'on ne l'est pas, mais si on le devenait, Nicolas Corato.
J'espère ne pas le devenir, justement.
Oui, mais c'est l'hubris des Grecs, vous savez, c'est cette histoire de démesure.
Oui.
Mais on a l'impression d'être dans un livre de Scott Fitzgerald, c'est-à-dire c'est Gatsby les magnifiques.
Oui, c'est ça.
Ils sont tous magnifiques, ils sont formidables. La vraie difficulté, c'est qu'est-ce que ça dit à l'humanité. Vous voyez, quand on arrivait sur la Lune, on voyait aussi ce que ça pouvait apporter 10 ans, 20 ans, 30 ans après pour notre vie quotidienne, pour la vie de l'humanité, pour la science, pour la santé. À quoi ça sert tout ça, à part envoyer des gens dans l'air?
Justement, je voulais rebondir là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que Elon Musk... Enfin, je ne sais pas si je le prononce bien.
Ouais, Musk.
On dit Musk.
C'est quand même Musk. Un des messieurs qui a ces visions-là, mais qui est le premier à dire qu'il faut arrêter l'élevage parce que c'est le réchauffement climatique, qu'il faut arrêter la viande parce que c'est le réchauffement climatique. C'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus. Et à savoir qui a raison, finalement, si c'est lui ou si c'est moi.
Oui. Bon,
mais il est tout à fait extraordinaire, Elon Musk. Ouais. Même s'il est aux antipodes de ma nature, c'est tout de même un type extraordinaire. Ouais. La manière dont il a construit tout ça.
Son business, oui.
Ah,
oui.
Non, mais
c'est pour rebondir et dire.
Le génie totalement.
Oui, c'est étonnant de dire ça, et puis après aller dans l'espace avec une fusée.
Et de financer la viande cellulaire.
C'est vrai que c'est paradoxal.
Il y a une vraie idéologie. Il y a une vraie idéologie chez Elon Musk. Moi, je retiens une chose de lui, c'est quand même lui qui nous a saccagé le ciel l'été dernier. Je vous rappelle que, vous savez, quand on avait envie de regarder les étoiles après avoir regardé les chiffres du Covid cet été, eh bien vous voyez constamment 5 ou 6 petits satellites qui se poursuivaient les uns les autres dans les ciels constellés d'étoiles de notre été français et mondial. Et ça, c'était les satellites qu'Elon Musk avait mis en orbite pour faciliter les communications intersatellitaires.
Ah, oui.
Et il a accepté de je ne sais faire quoi pour qu'il brille un peu moins dans le ciel et qu'on puisse enfin retrouver notre ciel mythologique.
Voilà. Alors tiens, si vous aviez 200 000 euros, vous le feriez, cette petite virée dans l'espace ou pas,
tout,
Véronique?
Du tout.
Nicolas,
non, jamais.
Je vous sens. Vous préférez la petite fleur.
Ouais, la marguerite, ça me va très bien.
La marguerite. Non, Philippe, ça, je connais la réponse.
Mais ils sont courageux, ces gars-là.
Ah oui, oui.
Ils sont hors-sol, c'est le cas de la vie.
Ils s'ennuient sur Terre.
Déjà, moi, j'aime pas les attractions à Disneyland quand il y a trop de jets. Alors,
la Terre est trop froide pour eux.
Oui, voilà, ça doit être ça. Allez, restez avec nous dans un instant. C'est le premier débat des vraies voix. Ce week-end, un jeune bachelier de 18 ans qui a été poignardé à mort dans sa boutique pour un simple différend à propos d'une facture. Ça s'est passé donc dans la boutique Bouygues Télécom de ce centre commercial qui se trouve à Claye-Souilly en Seine-et-Marne. Cette escalade de la violence vous inquiète-t-elle? Parce qu'il y en a une, ça c'est la réalité. 0826 300 et les réseaux sociaux pour voter. Twitter, YouTube, les vraies voix reviennent dans quelques minutes pour débattre avec vous. A tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Véronique Lenglet, Philippe Bilger, Nicolas Corato, les vraies voix jusqu'à 19h. Et notre premier débat tout de suite autour de ce drame donc à Claye-Souilly en Seine-et-Marne. Un homme qui a poignardé à mort un vendeur d'une boutique Bouygues Télécom, Théo, un jeune bachelier de 18 ans. Une autre personne a été grièvement blessée. La cause, eh bien tout simplement un différend commercial autour d'une facture. une simple facture. L'homme, un ressortissant sénégalais de 62 ans, qui a demandé un remboursement qu'il n'a pas obtenu. Il a alors quitté les lieux avant d'y revenir avec un couteau. Cette escalade de la violence vous inquiète-t-elle? Vous votez sur Twitter, sur YouTube, vous dites oui à 89%. Et puis surtout, vous nous appelez pour en débattre avec Philippe Bilger, Nicolas Corato, Véronique Lenglet, 0826 300 300. On va accueillir Marie dans quelques instants. Marie du Val-de-Marne, Philippe Bilger.
Alors,
terrible histoire donc qui s'est passée ce week-end.
Alors il y a le problème de la qualification pénale, mais elle ne nous regarde pas directement. On peut considérer que ces deux visites antérieures, ces deux inspections, pourraient laisser penser qu'il a prémédité son acte, et donc c'est un assassinat, et, ou une tentative, puisque un autre, heureusement, est sauf. Mais plus sérieusement, ça rejoint la modernité délétère en matière de délinquance et criminalité. Voilà un homme qui a été incapable de dialoguer, qui probablement, parce qu'il n'avait pas les mots, a substitué à cette incapacité le crime et a immédiatement frappé. Et je note également que de plus en plus, on peut tuer pour une absence totale de mobile. Là, on peut dire qu'il était dérisoire, le mobile, puisqu'il avait un différend avec cette boutique. Mais n'empêche que de plus en plus, on tue, on assassine pour rien, en quelque sorte, par une sorte d'expansion d'une méchanceté intime. Mmh. Et troisième élément, et je termine, on dit souvent que les Français ne sont pas courageux et ne viennent pas au secours.
Alors, oui,
mais là, on
vrai.
A l'exemple inverse, Philippe.
Oui, et alors juste pour vous dire que l'homme, le tueur présumé, a été arrêté par un policier, un agent pénitentiaire qui était hors service à ce moment-là, qui ont été l'attraper, le menoter, aider d'un client.
Et
voilà, trois personnes très courageuses.
Oui.
Nicolas, vous n'avez pas l'impression, effectivement, il a raison, Philippe Bulger, on passe à l'acte gratuitement, mais pour rien surtout, et de plus en plus.
Oui, c'est vrai qu'on a l'impression, alors il y a des grands débats, est-ce que la société est plus violente aujourd'hui qu'elle ne l'était hier? Ça, on ne va peut-être pas rentrer dans le fond. Mais c'est vrai qu'on marque beaucoup, on cite beaucoup les actes de violence gratuites.
Mmh.
Là-dessus, il faudra laisser faire l'enquête parce que peut-être que sa violence n'était pas si gratuite que ça, en tout cas vu de son point de vue un peu délirant ou énervé. Mais je pense qu'il faut laisser... on ne connaît pas encore les raisons du mobile de ce personnage. Mais c'est vrai qu'on a une sensibilité aujourd'hui très exacerbée par rapport à la violence gratuite qu'on ne supporte plus, et de manière tout à fait normale, surtout quand elle en arrive à ce drame-là. C'est effectivement la jeunesse des deux victimes, parce qu'il y a quand même une victime qui a survécu mais qui est gravement blessée et qui sera, à mon avis, longuement marquée. Et puis c'est vrai aussi, il faut toujours tirer du bon dans ce qui est d'horrible, la solidarité qui s'est exprimée, d'après ce que j'ai lu, moi, pas simplement que d'un passant qui a été très important, mais de trois autres qui sont immédiatement intervenus, y compris pour faire en sorte de ne pas que le policier ne tire pas sur l'agresseur, mais qu'on puisse le prendre vivant et arrêter son embardé infernal. Donc oui, c'est je pense qu'on a une vraie problématique sur la sensibilité à cette violence, la sensibilité à cette violence gratuite qu'on ne comprend plus. Mais il y a tellement de violence dans tous les sens du terme dans cette société que c'est très compliqué d'aller voir les mobiles. Mmh. Je pense que des gens se sentent aujourd'hui agressés pour des choses qui nous semblent illusoires, absolument anecdotiques, et qui font une partie de leur vie. Et il y a quelque chose, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que cette société de la consommation donne autant de délires qui vont jusqu'à passer outre la vie des autres? Enfin, on est vraiment rentré dans une société très inquiétante à ce sens-là.
Et l'homme a été mis en examen pour tentative d'assassinat, parce qu'on s'est aperçu via les caméras de vidéosurveillance qu'il aurait fait, deux jours avant, deux, trois repérages autour de cette fameuse boutique.
Eh oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis pas surprise. Alors, je ne suis pas psychologue ni même psychiatre, mais on sort. Nous sommes dans une crise quand même sans précédent. On nous a obligés à rester enfermés. On a eu un ensemble de choses qu'on nous a imposées, le port du masque, travailler à la maison, être isolés les uns des autres. On a quand même, à mon avis, en mon sens, réussi à occasionner des frustrations. Je pense que ça a engrangé beaucoup de frustrations et qu'on a besoin de les sortir. Alors c'est vrai que ça n'est pas une excuse. On a beaucoup de gens, notamment sur les réseaux sociaux, qui ont besoin de s'exprimer et qui le font souvent de façon violente. Et je remarque aussi que depuis un an, un tout petit peu au-delà. Quand vous conduisez, vous avez facilement des agressions. Quand vous bousculez quelqu'un, que vous passez trop près de quelqu'un, tout de suite, ça en vient aussi à des violences verbales, voire au-delà. Moi, j'ai déjà séparé des personnes à plusieurs reprises qui, pour rien, se battent maintenant. Donc, je pense que la crise sanitaire a engrangé d'autres choses. Après, je suis pas spécialiste, mais on peut se poser la question aussi si, comme vous dites, c'est un problème aussi de langage, de frustration, d'incompréhension de la part des deux parties, je ne sais pas. Mais
En tout cas, c'est une réalité, hein, parce qu'il y a souvent le débat, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un sentiment, l'insécurité, la violence. On est d'accord, Nicolas, on est d'accord.
C'est très effrayant, en tout cas, alors, parce que comment réagir maintenant?
Marie est avec nous, nous appelle du Val-de-Marne, 0826 300 300. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir.
Mais bonsoir à vous. Bonsoir. Je vous présente Nicolas Corato, Marie-Philippe Bilger, Véronique Langlais qui est avec nous. On vous écoute, ma chère Marie.
Oui, alors bien sûr que l'explosion de la violence m'inquiète et l'on constate que les gens sont de plus en plus agressifs et ce depuis plusieurs années. Je dirais que c'est même avant le Covid. Hein. On le voit aussi sur les routes, il n'y a plus de respect. Aujourd'hui, il faut savoir garder le contrôle de soi et laisser passer certaines situations car ce genre de situation peut arriver n'importe où et à n'importe qui. Ce qui est arrivé ce week-end dans le magasin de Bouygues Télécom n'est pas excusable et évidemment que le monsieur de 62 ans doit payer son acte. Il a enlevé la vie quand même à un jeune et il est quand même sorti pour aller chercher un couteau et on ne règle pas un différend avec un couteau. Toutefois, sans excuser la situation, je trouve que la société d'aujourd'hui est de plus en plus violente. Elle déshumanise les gens, elle les plonge dans des situations très compliquées. La société numérique est violente, les messages vocaux, faites le 1, le 2, le 3, sans avoir un humain au bout du fil pendant un long moment. Les gens s'isolent de plus en plus et j'en arrive en fait à péter les plombs. Quoi. Alors il suffit qu'en boutique, vous tombiez sur un commercial qui se moque un peu de vous et de votre problème et ça part en live.
Alors, c'est pas faux, c'est pas faux. Ce que dit Marie, Nicolas Corato, c'est vrai qu'on est complètement déshumanisé. Envoyer un mail, appeler notre serveur vocal.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que dans ces services commerciaux ou publics, les personnels qui sont au contact des usagers sont en danger.
Ouais.
Parce que, et on le voit d'ailleurs...
On l'a vu à Clay-Souilly.
Mais on le voit d'ailleurs depuis la crise Covid. Moi, je suis assez surpris de voir énormément de loueurs de voitures, d'établissements privés qui ont refusé maintenant tout contact physique. C'est-à-dire que vous n'avez plus, même au téléphone, vous avez le droit à chatter avec des algorithmes qui vous répondent toujours à côté. Vous avez le droit d'aller chercher sur le site internet, mais il n'y a plus de contact humain. Les gens se font insulter au téléphone ou se font menacer physiquement quand ils sont physiquement présents. Donc, vous savez, au début du Covid, on a parlé de ces gens de deuxième cordée, vous savez, le deuxième front, ceux qui étaient au contact de la population. Ben, c'est ceux-là. C'est ceux-là qui sont, y compris, qui ont un petit job d'alternance dans un magasin de téléphonie mobile et qui sont au contact de tout ce que la société fourbit de violences, de choses rentrées, qu'on a un moment besoin d'exprimer. Mmh. Quand vous avez passé 3 heures avec quelqu'un au téléphone qui ne répond pas à votre question, vous allez dans le magasin avec vos frustrations, parfois votre violence rentrée,
d'ailleurs,
votre haine.
Et
ces gens-là, moi je pense, sont aussi en danger, il faut les protéger. Dans cette société, on ne sait plus se parler. D'ailleurs, on a perdu le goût même de se parler. On ne sait plus que crier ou que annoncer ou que réclamer. Et effectivement, je pense que je veux pas excuser ce drame et donner aucune. Enfin, c'est pas mon propos.
Mais c'est un constat.
Mais je me dis quand même qu'il faut qu'on apprenne ensemble à devenir plus sociaux. C'est pas possible.
Alors tiens, on a une commerçante avec nous, Véronique Langlais.
Non, mais ça m'est arrivé.
Chère Véronique, quand vous êtes derrière votre vitrine.
Non, mais ça me
revient.
J'ai eu la situation de ce monsieur il y a pas longtemps. En fait, je n'avais plus Internet. Donc ça veut dire que je ne pouvais plus encaisser mes clients ni même recevoir mes commandes digitales. J'appelle donc Orange, qui m'envoie un autre interlocuteur. Puis un autre. Je tournais en rond, ça a duré 2 jours. Je suis restée quand même, j'ai compté 8 heures au téléphone en 2 jours, ce qui est quand même énorme. Et j'ai fini par aller à la boutique. À la boutique, on m'a dit, madame, vous n'avez pas à venir là, vous n'avez pas rendez-vous. Mais je leur dis, mais moi, j'ai besoin de vous pour mon entreprise. Et c'est vrai que j'étais à deux doigts d'agresser de tous les noms d'oiseaux la personne qui était face à moi. Et je me suis raisonnée parce que je prends beaucoup sur moi, mais je comprends
mais c'est
qu'on
compliqué.
Puisse...
Ouais. C'est compliqué.
Mais je crois aussi que moi, j'ai des exemples dans la tête que lorsque il y a la réciprocité de l'attitude aimable, lorsque le client est correct, eh bien, de l'autre côté, on l'est aussi.
Ouais.
Souvent.
Merci Marie.
Du meilleur.
Merci à vous, ma chère Marie.
Merci. Bonne
J'imagine que vous aussi, Marie, vous êtes confrontée à ce tout robot.
Oui, ah ouais. Oui, bien sûr. Oui, non, mais j'avoue, mais justement, ça m'est arrivé de me rendre dans un magasin Bouygues sans faire de la pub, ouais, à l'ouverture pour acheter un portable, et je suis tombée sur un vendeur, mais désagréable à souhait. Bon, je suis sortie en colère, et je me suis rendue chez Orange, pardon, pour la pub, ah, où oui, l'accueil était, oui, bien différent, et voilà, j'ai vécu ce genre de situation. Maintenant, prendre un couteau pour aller tuer la personne,
non, ouais, bien, ouais, évidemment, bien sûr,
bien évidemment.
Merci, ma chère Marie. Merci à vous. Continuez à nous écouter, à écouter Sud Radio. Et vous pourrez suivre d'ailleurs l'intervention du chef de l'État, Marie. Je ne sais pas si vous avez prévu d'écouter les annonces d'Emmanuel Macron, à suivre en direct à 20h sur Sud Radio. Et évidemment, l'analyse et les commentaires des vraies voix juste après. On passe tout de suite au deuxième débat.
Les vraies voix Sud Radio.
Autour des propos de l'acteur Pio Marmaille, alors qu'ils font polémique ces dernières heures, on va en discuter. Écoutez, c'était au Festival de Cannes lors d'une conférence de presse autour du film donc La Fracture, film dans lequel Pio Marmaille joue. Il y campe un camionneur gilet jaune. Il était interrogé par une journaliste sur ce qu'il dirait à Emmanuel Macron s'il le rencontrait. On écoute la réponse de Pio Marmaille.
Encore une fois, Macron, j'aimerais bien aller chez lui en passant par les chiottes et par les tuyaux et lui péter la gueule, ça, évidemment, mais un peu comme tout le monde, dans l'absolu. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, comment est-ce qu'on raconte cette révolte?
Alors, cette phrase, évidemment, indignée sur les réseaux sociaux, mais pas que, jusque dans l'entourage du président de la République. L'appel à la violence n'a sa place nulle part et votre statut d'artiste ne le rend ni plus intelligent, ni plus acceptable. Vous remportez la palme du propos le plus vulgaire. C'est Christophe Castaner qui a tweeté ça, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Et juste avant qu'on échange, qu'on discute, qu'on débatte, Pio Marmaille qui s'est défendu il y a quelques heures en expliquant que cette phrase était sortie de son contexte. Est-ce que les propos de Pio Marmaille vous choquent? Et aussi sur l'argument, c'est sorti de son contexte, il faut réécouter la vidéo qui dure 42 minutes. Non mais c'est vrai, c'est souvent ça,
en
Philippe
Hidger. L'extrait que vous avez passé montre que mon indignation immédiate sur Twitter n'était pas complètement fausse. Malheureusement, il y a une conséquence aussi négative, c'est que la seule réplique qui a été apportée par le pouvoir l'a été par le médiocre, on peut dire, Christophe Castaner.
Alors c'est lui que j'ai cité, il y en a eu d'autres.
Ouais,
Il y en a eu peu. Nicolas Corato.
Bon, alors je vais pas être d'accord avec Philippe, mais avec son tweet, moi j'ai regardé effectivement le verbatim de cette conférence de presse. En fait, cet acteur parle de son personnage qui effectivement dans le film concerné est un camionneur gilet jaune qui ne rêve que d'une seule chose, et c'est une réplique du film, c'est de passer, pardonnez-moi de l'expression, par les chiottes,
péter la gueule,
pour aller péter la gueule à Macron, tout ça étant entre guillemets. Je pense que tel qu'il le dit dans la conférence de presse, c'est un peu maladroit et que parfois on peut se confondre
et
avec son personnage quand on est d'un acteur, mais il parle bien d'un personnage d'un film qui effectivement se conduit et exprime cette rage, cette colère, cette envie de passage à l'acte, qui d'ailleurs on a vu dans bien d'autres cas pendant la crise des Gilets jaunes et qui peut-être n'est pas complètement éteint. Donc je pense qu'il faut, j'ai envie de dire... si on laissait un peu les artistes tranquilles, je sais que je vais plaire, mais je vais plaire à tout le monde, mais d'une certaine manière, moi j'aimerais qu'on laisse les artistes tranquilles. Ils font des faux pas, l'expression publique c'est pas leur truc, la politique non plus. Ils parlent de leur film, parfois ils en parlent de manière passionnée, parfois passionnante. Moi j'ai pas vu ce film. J'encourage tout le monde à aller regarder ce film plutôt que la conférence de presse d'un des acteurs. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est que l'important c'est d'aller le voir ce film pour ce qu'il dit ou pas de notre société. En revanche, moi je pense que c'est pas un appel à la violence, je dénonce tous les appels à la violence, j'ai été très clair notamment sur la gifle rendue à Macron, enfin je pense qu'on vit un moment extrêmement compliqué, extrêmement inquiétant par rapport à cela. J'ai l'impression ici que on a voulu faire payer, parce qu'on aime bien se payer les artistes de gauche en ce moment, et on aime bien faire payer à une formule d'intelligentsia leur soi-disant liberté de création. Moi, je pense ici que c'est assez malhonnête.
Ouais. Mais là, vous l'avez très bien expliqué, Nicolas.
Non, mais...
Si j'avais su ça, mais j'aurais pu
Retirez votre tweet, alors.
Non, je le retire jamais. Mais en revanche, je vais dire peut-être que j'ai une très bonne explication qui montre que c'est le personnage qui parle. Ça n'est pas l'acteur. Alors, laissez les acteurs tranquilles, Nicolas, d'accord, mais il faudrait aussi que les acteurs nous laissent tranquilles.
Ils ne sont pas très encombrants, les acteurs.
Qu'est-ce qui vous gêne? Ils donnent trop de leçons de morale, les acteurs, les actrices.
Ce qui me gêne, c'est les conséquences qu'on en a parfois sur le terrain de leurs actions. Quand vous dites qu'ils ne font pas de politique, je ne suis pas d'accord avec vous, ils ne font que de la politique.
Ah mais si, ils font de la politique, mais parfois, ce n'est pas des spécialistes.
Et que quand on parle des Gilets jaunes et qu'on a vécu pendant plusieurs années ce qui s'est passé avec les dérive, non pas des gilets jaunes, mais des casseurs, on garde une certaine raison et une certaine distance. Je pense qu'on peut pas tout dire, on peut tout dire, mais qu'on peut pas, faut pas oublier que ce sont aussi des ambassadeurs quelque part, qu'ils sont une image, ils sont censés nous vendre du rêve en fait. Et là, c'est pas le cas.
Ouais. En tout cas, dans le micro, Philippe. En tout cas,
de la passion,
de la colère. Bah, les acteurs sont aussi là pour faire des films, pour dénoncer des situations,
écrire le réel. Et non, mais il y a des grands films qui font pas du tout rêver.
Mais allons voir ce film. Et puis
la fracture, son mouvement des gilets jaunes.
Allons voir ce personnage. Ça peut être intéressant.
Non, mais c'est vrai que la façon dont il l'a dit, c'est vrai que ça prête à compte. On ne sait pas si il donne la réplique de son personnage tout le temps le pensant lui-même, ou s'il donne juste à l'autre.
Relisez verbatim, qui est disponible notamment sur le site du Figaro.
Non, mais peut-être, c'est très intéressant.
D'ailleurs, le Figaro l'a dit. Il fallait tenir compte du contexte.
Pas tous en même temps.
Non, mais peut-être qu'il a profité aussi du contexte pour passer le message.
Non, Véronique, là, il faut être convaincu par ce qu'a dit Nicolas.
Bah, je regarderai aussi, j'ai le temps, là.
45 minutes, c'est clair, il est le seul qui l'a écouté.
Ouais. Et donc c'est vrai.
Et c'est un acteur intelligent, lui.
Alors, c'est vrai que c'est le problème, et pour finir là-dessus, c'est vrai qu'en ce moment, dans les médias, avec les réseaux sociaux, on sort beaucoup de phrases de son contexte. C'est vrai qu'on aime bien faire un petit montage, donner les 30 secondes sur les 10 minutes qui se sont écoulées.
C'est pas nouveau, vous savez, on l'a longtemps fait uniquement pour les hommes politiques. Ce qui est nouveau, c'est qu'on le fait pour tout le monde.
Absolument.
Aujourd'hui. Donc, les hommes politiques sont habitués à ce qu'on sorte leurs phrases de leur contexte, ce qui font qu'ils font tout le temps les mêmes phrases, et donc ça, maintenant, on a bien compris. Les autres qui interviennent, vous faites une conférence de presse, demain vous présentez votre nouvel étal de boucher. Vous verrez qu'on arrivera à sortir une phrase de son contexte qui vous portera préjudice.
Ils sont piégés. Allez, les débats des vraies voix que vous pouvez évidemment réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr, sur l'application Sud Radio, ou alors en vidéo sur notre chaîne YouTube. Allez-y, d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Sud Radio. On va jouer au roi de l'info dans quelques minutes, à 17h48, 0826 300 pour participer et peut-être faire équipe avec Véronique Lenglet par exemple. Vous avez le choix, Nicolas Corato, Philippe Bilger, 0826 300 300. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
C'est la suite des vraies voix sur Sud Radio, Nicolas Corato, Véronique Lenglet, Philippe Bilger et Clément Barguin qui nous a rejoint. Bonjour, roi de l'info.
Les vraies voix Sud Radio. Roi de l'info.
Allez, le roi de l'info avec Clément Barguin et vous au 0826 300 300 pour jouer avec nous, faire équipe peut-être avec une de nos vraies voix. À qui on joue, Clément ?
Et ce soir, on joue avec Fabienne qui nous appelle depuis Castres. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir
Fabienne.
Alors, les règles du jeu, elles sont simples, vous les connaissez. Trois questions à chaque fois, trois propositions de réponse, une seule est la bonne. Et pour jouer, Fabienne, vous allez vous associer à une de nos vraies voix du jour. Alors, vous avez le choix entre Véronique Lenglet, Nicolas Corato ou Philippe Bilger. Qui choisissez-vous ?
Oh, je vais prendre Véronique cette fois.
Ah,
merci,
merci.
Avec Véronique. Et on commence avec cette première question. C'est pour le traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Un personnage sera mis à l'honneur cette année. De qui s'agit-il ? Réponse 1, Robert Malone, présenté comme l'inventeur des vaccins ARN messagers. Réponse 2, Thierry Burkhard, le nouveau chef d'état-major des armées françaises. Ou réponse 3, le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry.
Je dirais réponse 2.
Non, ce n'est pas le nouveau chef d'état-major.
Vous l'avez peut-être dit, Véronique.
Réponse 1 ?
Non plus.
La 3,
c'est le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et c'est la France qui mettra à l'honneur sur ses avions le personnage du petit prince. 2021 marque le 75e anniversaire de la parution en France du fameux roman d'Antoine de Saint-Exupéry.
Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas ? Qu'est-ce qui se passe ?
J'avais pas cette information. Je suis assez choqué.
Ah bon ? Halluciné.
Non, mais quand on pense à Saint-Exupéry, qui avait un engagement militaire, etc., mais qui a quand même créé ce personnage aussi en réaction. Notamment à la guerre, donc associer le petit prince à l'armée, ça n'est pas de soi.
Ben, c'est dû en même temps, ça.
Voilà.
Est-ce que c'est bien réfléchi aussi ?
Ça a été annoncé en tout cas dans l'après-midi. Allez, on continue avec la question 2. C'est à Édimbourg, en Écosse, un bâtiment qui vient de sortir de terre fait beaucoup parler de lui depuis quelques jours. Pour quelles raisons ? Réponse 1, l'édifice est entièrement recouvert de miroirs. Réponse 2, le bâtiment est en forme de crotte. Ou réponse 3, c'est la plus haute tour d'Europe qui vient d'être construite. Fabienne.
Vous le savez, Fabienne ?
Non, peut-être Véronique va m'aider, est-ce qu'on dirait le 2?
La 2,
oui. Oui, bah c'est bien ça, c'est la 2. Le bâtiment est surnommé littéralement la Crotte Dorée, enfin, a été surnommé sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un hôtel en forme de l'emoji caca disponible sur tous nos smartphones. Et ça fait polémique depuis qu'il est sorti de terre. Certains dénoncent un bâtiment horrible. D'autres,
les hôtels n'ont pas d'odeur.
Nicolas, c'est vrai que sur le papier, ça fait pas... Ça fait pas trop rêver.
Non, mais il faut voir l'autre. C'est joli. Non, mais c'est pas si moche que ça. Il y a une sorte d'envolée, mais c'est vrai que ça, quand on y pense, quand on a un esprit mal placé, ce qui peut être le cas de beaucoup d'Écossais, effectivement.
En tout cas, il avait la réponse. Hein,
voilà, il l'a soufflé.
Je suis spécialisé dans ces questions-là. Vous
pour Fabienne et Véronique. Et on termine avec cette troisième question. C'est aux États-Unis, une passagère a tenté d'ouvrir les portes d'un avion en plein vol. L'équipage a dû intervenir pour l'en empêcher. Qu'a fait l'équipage? Réponse 1, ils lui ont donné un somnifère pour qu'elle se calme. Réponse 2, ils l'ont installée confortablement en première classe. Ou réponse 3, ils l'ont ligotée avec du scotch sur son siège. Fabienne.
Qu'est-ce qu'elle dit, Fabienne? Vous dites quoi, Fabienne?
Ligotée.
La 3.
Ligotée.
C'est la bonne réponse. La femme a été attachée à son siège après avoir essayé d'ouvrir la porte pour sortir de l'avion en plein vol. Et l'équipage a indiqué que la passagère avait fait une crise d'angoisse et que c'était la seule manière de la maîtriser.
C'est compliqué.
Elle était peut-être un petit peu.
Un petit peu,
je pense.
Un petit peu cinglé.
Tout
peu
dérangé. Même quand on a.
Moi, ça fait deux bonnes réponses.
Fabienne, écoutez, vous remportez ces rois de l'info, ma chère Fabienne, grâce aussi à Véronique Langlais. J'ai été coincé une fois dans un ascenseur avec une très gentille femme, et qui était claustrophobe et qui m'a un peu tapé parce qu'elle supportait pas.
Qui vous a tapé.
Ouais. Mais moi, j'avais pas de
somnifère.
Je n'avais pas de somnifère sur moi et je n'ai pas de scotch. Ni de scotch. Voilà.
Dommage.
Alors, c'était embêtant. Merci à vous, Fabienne.
Avec plaisir.
Merci en tout cas. Bravo à Véronique Langlais.
On écoute le 20h. Hein.
Et le mug?
Non, alors il n'y a pas de mug aujourd'hui. Il faudra rejouer avec nous, ma chère Fabienne.
Vous revenir.
On passe grande commode de mug Sud Radio et on vous l'offre. On vous les offre dès qu'on les a. Merci à vous, ma chère Fabienne. Restez avec nous puisque dans quelques instants, ce sera le grand débat des vraies voix. Les annonces, l'allocution du chef de l'État ce soir à partir de 20h à suivre en direct sur Sud Radio. La vaccination obligatoire pour les soignants, le pass sanitaire étendu, c'est ce que pourrait annoncer Emmanuel Macron à 20h. Face à la crise sanitaire et surtout aux variants Delta qui augmentent et qui inquiètent, le chef de l'État doit-il convaincre les Français à se faire vacciner ou alors est-ce qu'il doit les contraindre, est-ce qu'il doit les forcer? Vous votez sur les réseaux sociaux et le numéro du standard de Sud Radio, 0826 300 300. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
18h06 sur Sud Radio, les vraies voix qui sont de retour. Les vraies voix, deuxième partie ce soir, c'est toujours avec Philippe Bilger qui n'a pas bougé, qui est resté là, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole. Véronique Langlais est avec nous ce soir. Véronique Langlais, bouchère, présidente des Bouchers de Paris. Et puis les vraies voix ce soir, c'est aussi avec Nicolas Corato, cofondateur du comité de réflexion Place de la République, think tank. Vous aimez pas ce mot-là, hein, Nicolas?
Non, c'est bien, parlons français.
Parlons français. Voilà, le comité de réflexion politique Place de la République. Et puis ce livre, Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, c'est le livre de Nicolas Corato. Et c'est aux éditions Eredium. Restez avec nous dans quelques minutes maintenant, c'est le grand débat des vraies voix, évidemment centré sur les annonces, l'allocution du chef de l'État ce soir à 20h. À suivre en direct sur Sud Radio, la vaccination obligatoire pour les soignants, le pass sanitaire peut-être étendu au cinéma par exemple, aux salles de sport, les discothèques, c'est déjà le cas. C'est ce que pourrait annoncer Emmanuel Macron à 20h face au variant Delta qui progresse, qui inquiète. Le chef de l'État doit-il convaincre les Français à se faire vacciner ou alors est-ce qu'il doit les forcer? En tout cas, c'est ce qu'il essaie de faire pour les soignants, la vaccination obligatoire pour les soignants. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous votez tout d'abord sur Twitter, sur YouTube et puis vous nous appelez pour en débattre, pour réagir avec nos vraies voix, Nicolas Corato, Véronique Langlais, Philippe Bilger et notre invité dans quelques minutes, c'est l'infectiologue et le membre de l'Académie de médecine, François Briquet, qui sera avec nous. 0826 300 300. On passe tout de suite au tour de table de l'actualité.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table.
Tout de suite, là. Ça a commencé?
Oui.
L'émission a commencé?
C'est ce que je viens de dire.
Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé.
Ah, d'accord.
Le tour de table
de l'actualité.
L'émission a commencé depuis quelques minutes. Hein, voilà. Si vous nous rejoignez, le tour de la table de l'actualité, qu'est-ce qui a interpellé Nicolas Corato?
Écoutez, moi, ce qui m'interpelle, c'est le renvoi de balle désormais perpétuel entre la maire de Paris et le préfet de police de Paris au sujet des consommateurs de crack qui pourrissent la vie d'un certain nombre de riverains dans le 19e arrondissement. Ouais. Alors, je ne veux pas parler du fond du sujet qui a déjà été vu, mais ce qui m'a beaucoup choqué ce matin, c'est de découvrir dans Le Parisien des échanges de lettres incessantes entre la mairie de Paris, la maire de Paris en tête et certains de ses élus, et le préfet l'allemand, chacun se renvoyant la responsabilité de ce qu'il faut faire. Et je pense que...
C'est un dialogue de sourds.
Oui, c'est un dialogue de sourds, mais au-delà de ça, ça fait longtemps que c'est comme ça. Et je dirais qu'en France, on s'est habitué à ce renvoi d'ascenseur ou ce renvoi de responsabilité. C'est-à-dire que le président du département va vous expliquer que c'est pas lui, que c'est le préfet. Le préfet va vous dire que c'est pas lui, c'est le préfet de région. Le préfet de région va vous dire que c'est bien la région, mais que c'est le président du conseil régional. Et je pense que, au-delà du sujet en lui-même, nos hommes politiques, nos dirigeants devraient réfléchir à ce déni de responsabilité permanent qui les pousse à expliquer à leurs administrés que c'est jamais la bonne porte à laquelle ils frappent. Et là-dessus, je pense qu'il y a un sujet démocratique important. Et que moi, quand on est riverain, par exemple, et qu'on est confronté à ce problème permanent, on a du mal à entendre que le préfet de police ne se dit pas compétent, renvoie à la ville, que la ville dise « c'est pas moi, c'est l'État ». Il y a un moment où on attend de ces institutions qu'elles travaillent ensemble.
Mais il n'y a pas des textes où c'est écrit ça
On a tout mélangé, c'est-à-dire que même le maire de Paris aujourd'hui a certains pouvoirs de police, le préfet de police en a beaucoup. Il y a un moment, alors soit on simplifie les choses et on donne des pouvoirs de police au maire et on en fait le seul responsable de tout ce qui se passe dans sa ville,
c'est clair.
Soit ces institutions qui ne devraient pas être concurrentes sont forcées de travailler ensemble et d'apporter une seule réponse aux administrés. Mais c'est pas responsable quand on est un élu et c'est pas responsable quand on est un haut fonctionnaire de finalement botter en touche à chaque fois qu'on le peut. Et moi, cette histoire, je la trouve très emblématique d'un problème français qui est effectivement ce déni de responsabilité politique.
Et puis là, j'ai envie de dire, il y a un peu quand même non-assistance à personne en danger. Hein, parce qu'on a vu qu'il y a une fillette de 3 ans qui a été blessée il y a une dizaine de jours. Voilà, il peut y avoir mort d'homme, Véronique Lenglet.
Non, c'est surtout qu'il y a des gens sur le terrain qui se trouvent complètement démunis face à la situation. Que effectivement, et ça moi je le vis aussi au quotidien par rapport à d'autres démarches sur des concertations sur la mobilité parisienne, sur le stationnement, où on nous dit que ça c'est pas de notre ressort, c'est effectivement la métropole ou c'est la région. Alors tout ce qui est dans Paris, c'est Paris, mais tout ce qui est en périphérie, donc les artisans qui viennent travailler dans Paris, c'est la métropole. Et comme ce ne sont pas les mêmes politiques, chacun s'envoie la balle et nous on est prêt à partir. Après on est surpris quand il y a des élections, que les gens soient complètement pas du tout impliqués et qui partent à d'autres obligations plutôt que voter.
Eh oui. Voilà. Philippe Bilger.
Ça me paraît évident. Je veux dire, Nicolas parle de ça, mais en général, il y a tout de même dans l'esprit français, je ne suis pas persuadé que chaque service, chaque institution soit prête à assumer ses responsabilités. Et en général, on a tendance à les transférer ailleurs. Et la lutte entre le préfet et
la maire de Paris,
c'est typique. Hein. C'est typique parce que elle a libéré le square. Bien sûr. Maintenant, ils se baladent autour. Donc, ça sert à rien.
Tout là-haut, au bureau du président Macron à l'Élysée, on peut rien faire quand le maire et le préfet se renvoient la balle comme ça.
Ils ne sont pas concernés du tout.
On peut agir sur le préfet de police, puisqu'il est sous l'autorité hiérarchique du gouvernement, ministre de l'Intérieur. Mais je pense que les riverains, les citoyens, ils attendent des actions concrètes sur le terrain. C'est-à-dire que le préfet dit aujourd'hui à la maire, c'est vous qui avez libéré
le jardin,
le square. Ouais. Ils se sont disséminés. Moi, j'ai pas prévu de force de l'ordre supplémentaire pour aller régler le sujet. D'une certaine manière, je vous tiens pour responsable, je vous sanctionne de votre décision politique. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, moi, je juge pas les choses. Je pense simplement aux gens qui se retrouvent aujourd'hui, comme dans certains quartiers à la Villette, avec des centaines d'individus qui sont sur le trottoir devant leur fenêtre et à qui on vient dire on mettra pas un policier de plus pour les contrôler, pour les surveiller, pour vous protéger. Tout simplement parce que Madame la maire n'a pas pris la bonne décision.
Oui,
et Madame la maire, de l'autre côté, aura dit bah, « Moi, j'ai pris la décision toute seule, sans en référer au préfet, de fermer ce square et de les, les répartir dans tout le monde. »
On déplace
alors,
le problème.
Alors, Nicolas Clamer avait laissé espérer que lorsqu'elle avait dit « Dans 8 jours, j'aurais réglé le problème », pas un instant, on ne pensait qu'elle les sortirait du square pour les dissimuler dans les quartiers.
Mais le problème n'est pas résolu.
Ça voilà, arrêté de dire que le préfet de police avait proposé un emplacement situé sous le périphérique pour regrouper ces consommateurs de crack, proposition qui n'a pas été adoptée par la mairie de Paris. Mais on voit bien quand même que sur des sujets qui sont aussi concrets, aussi engageants, où quand même on devrait venir à bout, il s'agit de 200-300 consommateurs de crack, et d'après ce qu'on sait, de 2-3 familles de dealers. Mmh. Enfin, tout ça est très connu, très documenté. Et on voit des autorités qui bricolent, des autorités qui bégayent, des autorités qui sont incapables de parler.
Mais si on les interpelle, Philippe, de toute façon, la majorité seront relâchés deux jours après.
Peu importe, il y aurait tout de même un acte, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de délinquants là-bas. Que je sache, l'usage de crack est une infraction, alors on répond, il faut qu'il y ait des dispensaires, des choses comme ça. Mais on peut commencer par interpeller, moi ça me dépasse.
Alors, le crack, quand même, pour vous qui nous écoutez, à Paris, dans le 19e arrondissement, du côté de Stalingrad, c'est pas la première année, hein, c'est pas la deuxième, ça fait 10 ans que c'est comme ça.
Non, ça fait plus que ça.
Génération de consommateurs de crack.
Quand j'étais étudiante.
Les maires se sont succédés, ça n'a jamais été résolu, ce problème.
Non, et ça ne fait que s'accentuer. Et le problème, ce sont les gens qui subissent ça au quotidien, finalement. Alors qu'il y a des solutions. Moi, j'habite dans le 17e, encore à Paris. Ouais. Et on a un hôpital, justement, qui gère les addictions de drogue. Alors, c'est vrai que c'est difficile pour les gens du quartier. Moi, j'ai vécu pendant 13 ans où j'avais même des gens qui se piquaient devant moi en s'excusant, en disant que c'était de la méthadone. Mais c'était pas, on n'était pas dans l'agressivité. Ils étaient quand même tenus par des médecins. Il y avait une structure. Là, les gens sont,
là, ils sont
dans
dangereux.
La rue.
Là, à Stalingrad, ils sont dangereux.
Il y a plein de choses. Il y a des viols. Il y a
oui, mais évidemment. Et puis les gens sont complètement démunis parce que le crack, c'est complètement addictif et c'est pas une drogue ordinaire.
Allez, pour finir, Philippe, allez-y.
Ce qui me dépasse, Nicolas, c'est tout de même un sentiment. Comment peut-on, dans notre monde, dans notre France, dans notre démocratie, avoir un tel sentiment d'impuissance ?
Oui, c'est ça. On est démunis.
Mais on est de plus impuissants. Enfin, je pense qu'il y a une vraie incapacité, comme vous le dites, Philippe, de travailler ensemble et une vraie volonté de s'exonérer d'une partie de sa responsabilité. Et puis, il y a cette incapacité à agir correctement sur le terrain. Et moi, je crois que ça tient beaucoup à la manière dont nos administrations sont constituées. On a recruté beaucoup de chefs de projet, beaucoup de gens qui travaillent sur la stratégie, sur le droit, sur les appels d'offres dans les bureaux. Et finalement, on a des pyramides inversées. C'est-à-dire, quand vous demandez, mais qui va sur le terrain ? Quelle assistante sociale va concrètement voir les consommateurs de crack ? Quel est le service de la mairie qui est dedans ? Quel est le service de police qui fait l'effort de... on découvre, en fait, il y a de moins en moins de gens sur le terrain, de plus en plus de gens ailleurs. Et je pense que ce sentiment d'impuissance, il vient aussi de cette impuissance à être réellement sur le terrain.
Mais par contre, on est verbalisé en permanence sur nos stationnements. On a des gens qui sont hyper mobilisés, qui viennent 3 fois par jour vous mettre vos PV.
Bah là, il y a des effectifs, hein, bizarrement.
C'est ça
de poids, de mesure. Allez, dans quelques minutes, le grand débat des vraies voix. Emmanuel Macron, les annonces du chef de l'État ce soir, doit-il convaincre ou forcer les Français à se faire vacciner ? Vous dites convaincre, évidemment, à 91%. On sera avec l'infectiologue et membre de l'Académie de médecine, François Bricaire, dans quelques instants. Et vous, évidemment, 0826-300-300. Et puis, plus près de nous, eh bien, nous allons prendre un petit peu la température dans les campings. Comment ça se passe dans les campings ? Est-ce que les Français sont au rendez-vous ? Ils partent majoritairement en France cette année. Quel protocole tient dans les campings face au variant Delta ? Dans un instant, on ira au camping de la plage. C'est à Sainte-Marie-la-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, un petit peu de vacances ce soir. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Les vraies voix sur Sud Radio avec Véronique Lenglet, Nicolas Corato, Philippe Bilger. Allez, tout de suite, je vous propose d'aller au camping.
Cet été, Boris passe ses vacances au camping de la plage.
Eh oui, ça ne nous rajeunit pas, hein, Boris. Miss Camping, vous avez été Miss Camping, vous, pas Véronique Lenglet?
Non, parce que j'ai fait du camping sauvage, je ne suis pas une bonne élève. Non,
vous étiez la seule candidate.
Oui, ben voilà, c'est ça. Ouais. Non, une petite Miss, non.
Miss de rien du tout.
Miss de rien du tout, ça nous va, c'est très bien. Vous êtes Miss Vraie Voix, ça vous va?
Ah, merci, au moins aujourd'hui.
Allez, Jean-Yves Barrère est avec nous, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Monsieur Barrère, directeur du camping de la plage, c'est à Sainte-Marie-la-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Tiens, quel temps fait-il chez vous, Jean-Yves Barrère? Il fait beau, j'imagine.
Oui, aujourd'hui c'est un peu venteux.
Il pleut, attention, dirait Rémi André.
Ouais, c'est pas terrible, mais bon, on attend dans les beaux jours la remontée des températures, il n'y a aucun problème.
Allez, je fais la petite fiche hein, pour donner envie aux auditeurs d'aller dans votre camping. 3 étoiles, hein, votre camping situé à 15 minutes de Perpignan, 30 minutes d'Argelès-sur-Mer, 35 de Collioure, à 1h30 de Barcelone. Il y a un espace aquatique avec des toboggans, avec des spas, avec des jacuzzis en plein air, ça donne envie. Hein.
Ah oui.
Des mobilhomes et des accès directs à la plage depuis le camping. Ça va, les Français sont au rendez-vous, Jean-Yves Barrère?
Alors écoutez, mais pour le moment, on n'a vraiment pas à se plaindre. Ouais. On a un bon temps de remplissage. Et oui, les Français sont au rendez-vous.
Très bien. Plus de réservations mobilhome, j'imagine?
Écoutez, aussi bien mobilhome qu'en placement camping, toile de tente. Ouais. Camping traditionnel, donc on a vraiment un bon taux de remplissage.
Bon, très bien, vous avez entendu, Véronique Lenglet a fait du camping sauvage. Nicolas, vous avez déjà fait du camping, Nicolas?
Moi, j'ai fait du camping toute mon enfance, toute mon adolescence, mais dans des campings très particuliers. C'était des campings gérés par le groupement des campeurs universitaires.
D'accord.
Autrement dit, l'autogestion, il n'y avait pas d'électricité. Oula. Un truc qui plaît beaucoup à Philippe Bilger.
Il n'y avait pas de spa ni de toboggan.
Mais j'adore le camping, je trouve que c'est une école formidable pour que les jeunes se rencontrent, pour que les familles vivent ensemble. C'est un moment absolument rêver, aller au camping, notamment au camping de la plage.
Ça ne vous a pas donné le goût, Nicolas, de l'autogestion
Mais presque, Philippe, presque.
Jean-Yves Barrère, alors, quel est le protocole sanitaire? J'imagine qu'il a été strict pour cette année et qu'il est toujours strict peut-être face au variant Delta, Jean-Yves Barrère?
Ah oui, tout à fait. Nous, en fait, depuis le début de la saison, en relation avec la Fédération d'Hôtellerie de Plein Air, on avait mis en place un protocole sanitaire que l'on suit depuis le début de la saison, depuis l'année dernière. Ça n'a pas bougé, c'est très strict. Ça permet aux gens de pouvoir profiter pleinement de leur séjour, mais dans un contexte sanitaire protégé, bien entendu, de la désinfection, rotation des lavages sanitaires. Vraiment, le respect des gestes barrières, donc sensibilisation du personnel et également de la clientèle dès qu'ils arrivent sur les lieux. Mais on remarque vraiment que les Français sont respectueux de ces règles, parce que même s'ils ont envie de profiter de leur séjour, ils se rendent bien compte que tout est encadré, tout est protégé, il n'y a aucun souci.
Bon, très bien. Qu'est-ce que vous attendez des annonces du chef de l'État ce soir à 20h? Je ne sais pas, peut-être que vous n'allez pas allumer votre télévision ou votre radio, puisqu'il sera en direct Emmanuel Macron aussi sur Sud Radio à partir de 20h, Jean-Yves Barrère.
J'écouterai sur Sud Radio. Écoutez, on n'attend pas grand-chose, nous, pour le moment, de toute façon, comme on fait depuis l'année dernière, on va s'adapter. Ouais. On est une profession, on s'adapte toujours. L'an dernier, cette année, on a eu des annonces au dernier moment, et on s'adaptera. Et on fera mieux pour notre clientèle.
D'accord, parlez bien devant le téléphone, Jean-Yves Barrère, on vous entend très peu. Vous avez eu des aides, vous, j'imagine?
Nous, en tant qu'établissement, oui, on a bien entendu eu des aides par rapport aux pertes qui ont été vécues l'année dernière.
Ouais.
Donc c'est vrai que là, c'est pour le moment, pour cette année, on croise les doigts et on espère que tous les 6 jours vont pouvoir se dérouler normalement.
Bon, très bien. Faites-nous un petit peu rêver, qu'est-ce qu'on peut faire dans votre camping pour terminer, Jean-Yves Barrère?
Alors écoutez, nous dans notre camping, maintenant avec l'accès directement sur la plage, vous allez pouvoir faire du paddle, planche à voile, bien entendu les sports traditionnels, la pétanque, le beach volley, également, on fait toutes les semaines, on fait des jeux familiaux, les Olympiades, alors également des jeux très encadrés, compte tenu du contexte, tout est adapté, également on a un grand city stade, du mini-golf, du volley, du foot et du tir à l'arc également.
Très bien. Alors souvent, le camping, c'est un peu les premières amours. Hein. Est-ce que vous allez continuer à faire des soirées malgré le variant, malgré le Covid? Il y aura des soirées? Il y a des soirées ou pas? Des soirées...
Alors, vous savez, oui, tout à fait. Donc, on va continuer. Alors, autant l'année dernière, donc les soirées étaient un peu nombreuses, autant cette année. tout en respectant le protocole sanitaire.
Ouais.
On va avoir des soirées, les gens seront assis, les gens seront voilà, on va respecter la distanciation, on va rester très prudent. Et comme ça, les gens pourront continuer de profiter et d'écouter les artistes locaux.
Bon, ben très bien.
C'est
écoutez,
bon pour le moral,
très bien. Je vous imagine bien Nicolas Corato au camping en train de gratter un peu de quelques notes de guitare.
Mais
non,
oui, moi j'avais une question pour votre
allez-y,
pour
Jean-Yves Barrère.
Oui. Est-ce qu'on chope toujours autant en camping?
Écoutez, il faudra que vous veniez pour demander à mes clients.
On vous attend
avec votre guitare et vous demanderez directement.
Avec mon épouse surtout.
Oui, oui, il est marié à Nicolas Corato. Oui, il va juste faire un travail de journaliste, évidemment, sur le terrain. Voilà, merci à vous, Jean-Yves Barrère, directeur donc du camping de la plage à Sainte-Marie-la-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Tiens, si vous nous écoutez, que vous vous dites, tiens, j'aimerais bien réserver dans ce camping, c'est toujours possible, Jean-Yves Barrère, il reste toujours de la place?
Il y a toujours de la place. Hein. Écoutez, vous nous appelez directement à l'accueil ou via le site internet et on vous donnera toutes les informations pour quelques séjours, mobil-home ou toile de tente, camping traditionnel.
Bon, avec très bien. Merci à vous, Jean-Yves Barrère. Restez
Merci.
Avec nous. La suite des vraies voix, c'est le grand débat, la locution du chef de l'État ce soir à 20h. La vaccination obligatoire pour les soignants, le pass sanitaire étendu. Voilà ce que pourrait annoncer Emmanuel Macron ce soir face au variant Delta. Le chef de l'État doit-il convaincre les Français à se faire vacciner ou alors est-ce qu'il doit les contraindre, les forcer? 0826-300-300, vous votez sur les réseaux sociaux. Et François Bricaire qui nous rejoint dans quelques minutes, infectiologue, membre de l'Académie de médecine. A tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
18h30 sur Sud Radio, place au grand débat des vraies voix, les annonces d'Emmanuel Macron à suivre à 20h sur Sud Radio. On sera là évidemment, hein, les vraies voix et nos invités, des soignants qui seront avec nous, des restaurateurs pour commenter les annonces. Avec vous évidemment, 0826-300-300, le chef de l'État qui pourrait annoncer donc la vaccination obligatoire pour les soignants, mais également un pass sanitaire étendu. Au cinéma, aux salles de sport, au restaurant, peut-être, on ne sait pas. Hier, François Bayrou, un proche du chef de l'État, hein, vous le savez, François Bayrou, j'imagine qu'en ce moment, ils se parlent aussi, Emmanuel Macron et François Bayrou. Lui, hier, il a plaidé pour la vaccination obligatoire, alors pour les soignants évidemment, mais pour tous. L'Académie de médecine qui y serait favorable. Le chef de l'État doit-il convaincre les Français à se faire vacciner ou alors est-ce qu'il doit les contraindre? 0826-300-300, on va vous écouter dans un instant. Tiens, on sera avec Xavier qui nous appelle de Rennes et puis vous votez toujours sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, c'est le grand débat des vraies voix.
En France, 6 personnes sur 10 ne veulent pas se faire vacciner contre le coronavirus.
Je crois qu'il est plus efficace de passer par la conviction et aujourd'hui de ne pas rendre la vaccination obligatoire.
On a développé en un an et demi un vaccin qu'en règle générale on met 5 à 10 ans à développer.
Ce qui est important, c'est d'expliquer à chaque fois tout ce qu'on sait, en transparence, de demander aux autorités sanitaires de tout dire.
Mentir, vous savez mentir.
Et de partager toutes les informations et le recul que nous avons sur ces vaccins.
Je ne suis pas vacciné, je vais guérir tout seul, avec mon corps et mes anticorps. Alors dites-moi pourquoi je me ferai vacciner.
Je crois que la confiance est en train de s'installer, je m'en réjouis, donc il faut, je pense, continuer d'avancer ainsi.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Le grand débat avec Véronique Lenglet, Philippe Bilger, Nicolas Corato et notre invité François Bricaire qui est avec nous, infectiologue, membre de l'Académie de médecine. Bonsoir monsieur Bricaire.
Bonsoir monsieur.
Bonsoir à vous, je vous présente Philippe Bilger que vous connaissez,
ben,
Nicolas Corato,
monsieur le professeur
Véronique Lenglet. Alors j'ai dit tout à l'heure que l'Académie de médecine était plutôt favorable alors à la vaccination pour les soignants, oui, mais peut-être même la vaccination pour tous. Est-ce que je me suis trompé ou pas, François Bricaire? Est-ce que vous y êtes favorable, en tout cas vous?
Non, non, en tous les cas, vous ne vous êtes pas trompé.
Bon.
Vous avez une académie qui s'est réunie, qui a beaucoup réagi.
Alors, François Bricard, on va vous reprendre dans quelques instants, parce qu'il y a un petit écho qui n'est pas très agréable. On vous reprend dans quelques instants, on va régler tout ça. Tiens, Véronique Lenglet, j'aimerais avoir votre avis, Nicolas Corato, Philippe Bilger. Déjà, sur la vaccination obligatoire pour tous, on l'entend, hein, cette petite musique. Nicolas Corato, est-ce que vous y êtes favorable ou pas?
Non,
si on parle d'intérêt général,
non,
évidemment.
Non, parce que je pense qu'on basculerait, même si la vaccination obligatoire dans ce pays existe. Hein,
bien
vous
sûr.
Savez, vous ne pouvez pas inscrire votre enfant en crèche,
oui,
à l'école, s'il n'est pas vacciné,
oui,
avec, je crois, les 11 vaccins.
Oui.
Donc, ce n'est pas une nouveauté. Moi, je veux croire à l'esprit de responsabilité, au civisme des Français, mais j'ai certainement tort, puisque les chiffres me donnent tort. Mmh. Mais je ne comprends pas ces chiffres. Et parfois, je ne comprends pas mes concitoyens par rapport à leur rapport à l'acte de se faire vacciner. Mais c'est un débat qu'on peut avoir. Mais ce temps-là paraît passer par rapport à la situation qui est exceptionnelle. Donc, si la situation de la vaccination obligatoire devait être exceptionnelle pour préserver notre société, notre façon de vivre, notre économie, et derrière, bien entendu, la santé des uns et des autres, je pense que le débat peut être lancé. Mmh. Mais rendre obligatoire une vaccination, ça me semble... En revanche, je suis très favorable à la vaccination obligatoire des soignants. Ouais. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de difficulté. Enfin, je ne comprendrais pas...
Vous n'irez pas jusqu'à suspendre un infirmier qui ne veut pas se vacciner. C'est ce qu'a dit François Bayrou.
Je ne suis pas épidémiologiste, mais les chiffres apparemment prouvent que les premiers foyers de contamination au Covid dans la première phase en 2020 ont eu lieu dans les hôpitaux, notamment en Italie et en France. Ouais. Donc, s'il faut traité quelque part, c'est quand même dans les hôpitaux.
Il est allé trop loin, François Bayrou, Philippe Bigard. On a récupéré, François Bricaire est avec nous. Monsieur Bricaire, on vous a récupéré. On parlait de la vaccination obligatoire. J'ai bien compris que l'Académie de médecine y était favorable, en tout cas pour la vaccination obligatoire pour les soignants. Est-ce que les propos de François Bayrou vous ont choqué? On suspend un infirmier qui ne veut pas se faire vacciner?
Oui, non, ça ne me choque pas. Ouais. Je vais vous dire très clairement, d'abord, pour les personnels soignants, que nous sommes, médecins, infirmiers, aides-soignants, etc., nous avons une responsabilité éthique vis-à-vis des malades dont on a la charge. Mmh. Et par conséquent, on doit tout faire pour ne pas les contaminer. Si nous sommes porteurs parce que nous ne sommes pas vaccinés, eh bien nous sommes en situation de rupture vis-à-vis de nos engagements éthiques. Donc moi, quand je dis moi, c'est l'Académie de médecine avec moi, qui est complètement favorable à l'obligation pour le personnel soignant. Mmh. Mais au-delà de cela, les propos de M. Bayrou ne me choquent pas, ne nous choquent pas. Ouais. Je pense qu'il est nécessaire de faire davantage et d'aller vers un élargissement des populations, soit qui sont au contact du public, soit même de tous les adultes. Alors, je peux le justifier. Nous sommes dans une situation difficile avec une épidémie, on le voit bien, qui est en train de recommencer avec un variant Delta particulièrement contagieux, une possibilité d'augmentation dans les jours qui vont venir du nombre de cas. Et donc, il faut impérativement forcer sur la vaccination. Alors, bien sûr, on nous dit il faut convaincre, il faut expliquer. Oui, mais ceci est fait déjà depuis longtemps. Mmh. Or, nous sommes maintenant, et on le voit bien, avec un certain nombre de gens qu'il faudrait vacciner et qui ne veulent pas, qui sont convaincus ou très souvent assez convaincus que la vaccination, c'est pas bien, que la vaccination, on peut s'en passer, que la vaccination, c'est pour les autres, mais pas pour soi. Et donc, par conséquent, il faut prendre ses responsabilités. Je pense que les politiques comme les corps de santé dont l'Académie de médecine doivent prendre leurs responsabilités en allant vers un geste vaccinal obligatoire. C'est quand même important parce que regardez ce qui se passe actuellement dans les structures hospitalières. Les gens qui sont en soins intensifs, c'est vrai à l'hôpital Bichat par exemple, sont des gens qui ont refusé la vaccination. Or, les gens qui refusent la vaccination, ils sont quand même très contents d'avoir les moyens de l'État à leur disposition quand ils sont malades et que c'est la conséquence de leur refus vaccinal. Mmh. Donc, par conséquent, je pense qu'il y a une nécessité, un, de savoir prendre ses responsabilités, et deuxièmement, d'avoir une réponse civique à un état grave de l'épidémie. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle l'Académie de médecine a sorti ce communiqué plaidant pour la vaccination obligatoire.
Philippe Bilger.
Monsieur le professeur, vous avez évoqué à juste titre le fait qu'on essaye la conviction depuis des mois et qu'au fond, à un moment donné, peut-être devra-t-on affronter quelque chose de contraignant. Mais deux questions rapides. À partir du moment où on est complètement, totalement favorable à la vaccination du personnel soignant, mais où il restera forcément, on est en France, une infirmière infime minorité qui refusera le vaccin, est-ce que vous ne craignez pas que la contrainte exercée sur cette minorité perturbe l'ordre et l'harmonie d'un univers dont on a absolument besoin? Et ma deuxième question, est-ce qu'au fond, on a le droit de distinguer l'obligation à l'égard des soignants et de dire qu'au fond, à l'égard du commun des citoyens, dans la mesure où il n'a pas de rapport immédiat avec les personnes vulnérables comme les soignants, on pourrait considérer qu'une minorité de bonne foi aurait le droit de refuser le vaccin? Qu'est-ce que vous pensez de cette alternative sans doute discutable?
François Bricker.
Oui, alors je comprends bien que, bien sûr, la vaccination obligatoire, c'est quelque chose qu'on ne prend pas et qu'on ne décide pas à la légère, que ça perturbe beaucoup de gens, que les gens disent c'est une atteinte à la liberté, etc. Ça, c'est parfaitement compréhensible. Mais je pense que, et je ne suis pas le seul, il est admis par la majorité des scientifiques responsables des épidémies que contrôler une épidémie, c'est avoir 90 à 95% de couverture vaccinale pour avoir cette fameuse immunité collective. Alors, vous n'aurez pas d'immunité collective si vous ne prenez pas l'ensemble de la population. Mmh. Si les gens volontaires à la vaccination le font, vous obtenez un taux qui va se situer aux alentours de 40%, 45%. Si vous voulez aller au-delà, eh bien, malheureusement, si les forces de conviction sont insuffisantes, et c'est ce qui se passe, il faut trouver le moyen d'aller plus vers la vaccination. Oui. C'est vrai, d'ailleurs, sur le territoire national, mais entre parenthèses, c'est vrai aussi en international. Mmh. L'épidémie ne sera contrôlée dans le monde que lorsqu'on aura vacciné suffisamment de monde.
Ouais. Et peut-être aussi un pass sanitaire étendu, ça pourrait faire partie des annonces d'Emmanuel Macron, qui obligerait les plus réticents aussi à se faire vacciner. On va accueillir, avant d'entendre Véronique Lenglet, Nicolas Corato, Xavier qui nous appelle de Rennes. Bonsoir Xavier.
Bonsoir.
Bonsoir à vous Xavier.
Enchanté.
Enchanté Xavier. Dites-moi alors, contraindre ou convaincre ce soir, que doit faire Emmanuel Macron?
Moi, je parlerais plutôt de convaincre. Mais, mais comment convaincre un peuple quand la confiance, elle est rompue? C'est ça la vraie question. Parce que quand on écoute le gouvernement parler, il dit une chose et tout son contraire. Par exemple, Emmanuel Macron avait dit au début que le vaccin ne serait pas obligatoire. Il l'a promis, il a dit deux fois, aujourd'hui, ça devient obligatoire. Pas dit directement, mais ça l'est quand même par rapport au pass sanitaire et tout ça. Ensuite, il y a ce premier fait-là. Et nos politiciens, ils ont une énorme responsabilité par rapport à la question de la confiance. Et ensuite, c'est aussi de se poser la question, moi j'en ai une autre, elle est pas très sympathique, mais quand je vois les laboratoires qui nous vendent les vaccins, il y en a pas un qui s'est pas retrouvé devant les tribunaux. Donc comment faire confiance à ce type de laboratoire? Par exemple, quand je vois Pfizer, il a quand même été condamné à de fortes amendes pour des publications frauduleuses, des trucs comme ça. Je vois par exemple Moderna, ils ont essayé de mettre sur le marché 9 vaccins, mais ils n'ont jamais dépassé le stade 3 de leurs essais. Et là, miraculeusement, ils y arrivent.
Alors attendez, sur le fameux stade 3, parce qu'on nous l'a beaucoup expliqué, François Bricker, ça revient beaucoup ça, ces laboratoires qui n'ont pas passé le stade 3 et qui commercialisent quand même leur vaccin. Est-ce que c'est une réalité, ça, François Bricker?
Écoutez, je ne suis pas assez dans les aspects légaux de mise en place d'une vaccination. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on est dans une situation difficile et que ces laboratoires se sont mis au travail avec des moyens modernes pour trouver un vaccin, à partir du moment où ils suivent les données scientifiques et qui mettent en place les études nécessaires pour prouver, un, la validité, donc l'efficacité du vaccin, et deuxièmement, je dirais presque surtout, la tolérance et qu'il n'y ait pas de toxicité, à partir de ce moment-là, les autorités tutélaires, les européennes, etc., sont à même de fournir l'autorisation de mise sur le marché. Bon, je crois que c'est ce qui s'est passé Je ne suis pas sûr qu'il faille se retrancher derrière ce genre d'argument pour dire on ne veut pas du vaccin. Je crois que là, il y a une nécessité, je le comprends très bien, et là, notre interlocuteur, je suis d'accord avec lui, et convaincre, tout fait pour convaincre. Mais il faut que les gens admettent que, encore une fois, la vaccination, c'est quelque chose de fondamental pour lutter contre des phénomènes infectieux graves ou généralisés. L'histoire l'a montré, hein. On peut reprendre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la variole, j'en passe. Et deuxièmement, la décision qui a été prise par la ministre de la Santé précédente de vacciner les enfants avec 11 vaccinations obligatoires, eh bien, écoutez, d'abord, premièrement, c'était une très bonne chose pour moi, et deuxièmement, ça s'est plutôt bien passé.
Alors, est-ce que c'est légal, tiens, tout ça, Philippe Bilger, Nicolas Corato, par exemple, alors, la vaccination obligatoire des soignants, ou encore le pass sanitaire étendu, si jamais c'était acté? Philippe Bilger, est-ce que vous le savez, ça?
Il y avait une minorité de parents qui avaient contesté l'obligation des 11 vaccins. Et je crois que le Conseil d'État avait statué à l'époque en disant, en gros, l'intérêt général prédomine. Je crois que le raisonnement pourrait être tenu de la même manière.
C'est ce qui va se passer.
Exactement.
Oui, Nicolas. Le Conseil d'État avait dit qu'il fallait changer la loi, puisque la loi, le Conseil d'État avait quand même dit que le sujet, c'est est-ce que je peux avoir les vaccins par dose unique, ou est-ce qu'il faut les 11 vaccins dans la même dose. Le sujet aujourd'hui, c'est que de toute façon, il faudra une loi pour le rendre obligatoire la vaccination auprès des soignants. C'est ce que j'ai compris. On va être dans le domaine législatif. Pour l'extension du pass sanitaire, je pense qu'on est déjà couvert par les différents textes et ordonnances qui ont été passés depuis le début de l'état d'urgence.
C'est ce qui se fait au Portugal, par exemple.
Il va falloir quand même mettre en place cette mesure. Ce que pense le gouvernement, c'est que le fait de dire que la loi va devenir effective au 31 juillet, parce que je crois que c'est à peu près l'échéance qu'ils se sont fixés, va inciter beaucoup de soignants à se vacciner dès demain pour être à jour de leurs obligations au moment où la loi entrera en vigueur. Après, la vraie question sur l'extension au reste de la population, c'est une question qui n'est plus que médicale ou que sanitaire, ça devient une question politique et sociale. Il y a une vraie fracture dans ce pays social. Il ne faudrait pas que demain il y ait une fracture vaccinale. Et moi, je pense qu'il faut faire très attention aux signaux faibles qui deviennent forts. Quand on voit comment certains Français réagissent à l'idée d'une obligation vaccinale étendue à tous. Moi, je vous renvoie à ce qui s'est passé il y a 2 ans quand on a commencé à parler des 80 km/h. Et franchement, c'était aussi, à l'époque, une mesure sanitaire et de sécurité publique, bien moins importante en termes d'enjeux que ce qu'est la procédure vaccinale. Vous avez vu ce qu'il est passé derrière. Je pense qu'il y a une forme de violence anti-vaccinale en France qui est très inquiétante et qu'il ne faut pas, absolument pas sous-estimer.
Bon, les annonces d'Emmanuel Macron, alors peut-être la vaccination obligatoire pour les soignants, même si je vous le dis, ça a l'air d'être acté, le pass sanitaire étendu aussi à suivre à 20h donc cette allocution du chef de l'État en direct sur Sud Radio. Merci François Bricker. Merci à vous, Monsieur Bricker, infectiologue, membre de l'Académie de médecine. Merci à Xavier, pour son commentaire, son témoignage. Xavier qui nous appelait de Rennes au 0826-300-300. On va se retrouver dans quelques minutes sur Sud Radio. Tiens, dans un instant, direction les Francofolies de La Rochelle, où se trouve en ce moment notre ami Yvan Cujus. Eh oui, Yvan Cujus du Loft. Il nous dira qui est en concert ce soir, qui est en concert cet après-midi. Il va vous faire vivre ses Francofolies en direct sur Sud Radio dans un instant. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
C'est avec Véronique Lenglet ce soir, Nicolas Corato, Philippe Bilger. Direction tout de suite les Francofolies de La Rochelle, où on retrouve Yvan Cujus qui est avec nous. Bonsoir Yvan.
Bonsoir tout le monde.
Vous êtes bien Yvan.
Vous êtes pas jaloux un peu là?
Il y a du soleil en plus.
Alors, qu'est-ce que Philippe Bilger a le teint pâle? Il faudrait qu'il vienne au soleil un peu, Philippe.
Il faudrait, on me le dit partout. Écoute, mais qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas me maquiller.
Mais il est bien accompagné, Philippe.
Tu as raison.
Bon, les Francofolies de La Rochelle, où vous êtes, Yvan Cujus? Comment ça se passe? Comment s'est passée déjà cette première journée? Qu'est-ce que vous avez vu, plutôt qu'est-ce que vous avez écouté, Yvan?
Alors, pour faire suite d'abord à ce que vous veniez de dire à l'instant sur les vaccins, les passes sanitaires, etc.
Ouais.
On a rencontré il y a quelques minutes Roselyne Bachelot qui était ici au Festival des Franco et qui a confirmé, en tout cas qui a un peu anticipé le discours d'Emmanuel Macron en disant que côté festival, il n'y aurait pas d'annonce particulière et que tout continuerait comme ça pour l'été en tout cas, et qu'il n'y aurait pas de restrictions, qu'il n'y aurait pas de mesures d'urgence. Voilà, c'est une petite info, ouais. Parce qu'ici, les gens se demandaient effectivement ce qui allait être annoncé. On se rappelle que les festivals, et en tout cas les concerts, avaient été stoppés net il y a quelques mois, donc les gens étaient assez fébriles, d'autant qu'on a des jauges réduites, et que hier, le concert de Slimane et Vita, qui était initialement prévu pour 10 000, était passé à 5 000, et puis hier, il y avait quand même que 3 000 personnes sur les 5 000. Mmh. Donc voilà, c'est une réalité. Mais en même temps, voilà, comme dirait quelqu'un que vous aimez, eh bien, les gens sont très disciplinés et on ne se rend pas compte de ces restrictions qui sont comme un peu handicapantes par instant. L'ambiance est inchangée et la ferveur est intacte.
Bon, très bien. Vous les avez rencontrés justement, vous, Yvan, ces spectateurs. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, ceux qui sont en Francofolie aujourd'hui ?
Ah oui, on a simplement croisé des gens voilà, qui ont raison, parce que vous savez, quand vous aimez Philippe Bilger, vous adorez Jean-Jacques Goldman, par exemple, voilà. Eh bien, quand vous savez qu'il passe en concert, même s'il y a quelques tests PCR à faire, eh bien, c'est du pipi de chat, c'est pas un problème. Vous allez voir les artistes que vous aimez. C'est le cas de la plupart des festivaliers qui, par exemple, ce soir, vont voir Francis Cabrel. C'est pas un petit test ou un passe sanitaire qui va les arrêter. Alors, en tout cas, Enzo Ramos est allé voir, et j'y étais aussi, le concert de Nicoletta. Et il a interrogé quelques gens à la sortie. Je vous propose qu'on l'écoute.
Allez.
À 14h30, le théâtre de la Coursive, au centre de La Rochelle, classé scène nationale depuis 1990, est plein. Les fans de Nicoletta attendent la chanteuse avec impatience. Quand quelques minutes plus tard, la lumière s'éteint et la salle prend vie, c'est la première fois en 50 ans de carrière que Nicoletta foule la scène du théâtre des Francofolies en enchaînant les tubes pour le plus grand plaisir de son public.
Yeah, oui. La musique, oui, la musique.
Il est mort le soleil. Oh, mami, mami, mami.
Les fans sont ravis à la sortie du concert, comme Lise, qui vient de Bordeaux.
C'était très bien.
C'est la première fois que vous venez aux Francofolies ?
Ah non, je suis venue plusieurs fois, non déjà.
Ou encore Carole, qui vient, elle, de La Rochelle.
Bah, c'est vraiment une voix incroyable.
C'est la première fois que vous voyez Nicoletta sur scène ?
En vrai, oui. Je l'ai vue filmer, bien sûr, mais j'avais pas eu l'occasion. Et elle dit que c'est ses premières Franco.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce concert ?
Bah, retrouver les vieux airs, cette voix extraordinaire. Cette personne qui se défonce à son âge pour y aller, quoi. Et qui est toujours là, et la voix qui est toujours là.
Voilà, Nicoletta, à l'affiche des Francofolies de La Rochelle. Tiens, Yvan Cujus, je sais pas ce que vous en pensez. Elle envoie, vous savez quel âge elle a, Nicoletta ?
Plus de 70.
On donne pas l'âge, hein.
Elle a plus de 70.
Elle est en
1944. Elle a 77 ans,
hein. Elle a un an près de son âge.
Incroyable, Yvan Cujus, la voix.
Ouais. Oui, on ne donne pas son âge, donc on ne dit pas qu'elle a 77 ans.
C'est vrai.
Et sinon, ce soir, dans les artistes qui ont été un petit peu à distance des Francofolies pendant longtemps, Nicoletta a mis 50 ans pour venir au Franco, et bien Cabrel, qui sera Francis Cabrel sur la grande scène tout à l'heure à Saint-Jean-d'Acre, n'était pas venu au Francofolies depuis 17 ans. Voilà. Et il est là ce soir, il est extrêmement attendu, Francis Cabrel. Il a un album qui a fonctionné magnifiquement, qui est à la hauteur des chansons de son écriture. C'est un orfèvre, c'est un poète d'une précision admirable et d'une poésie incontestable et incontestée d'ailleurs, et d'une musicalité qui vraiment est extrêmement touchante. Et bien Francis Cabrel est ce soir sur la scène à partir de 21h20, et je peux vous dire qu'il y a un public qui l'attend qui est assez extraordinaire. Il y aura également d'ailleurs Marc Lavoine à 20h30, et Nicoletta était avec Salvatore Adamo à 14h30. Vous voyez tout ça, ça montre le caractère extrêmement transversal, extrêmement transgénérationnel des Francofolies. C'est un festival familial qui s'inscrit dans la beauté de la ville. Ils ont réussi vraiment à mettre au même niveau la beauté du patrimoine et les mélodies patrimoniales également que nous connaissons tous de la chanson française. Ouais. Vous savez, je finis là-dessus, Gérard Pont me disait qu'il y a quelques années, on lui disait que la chanson française était ringarde et que ça ne marchera jamais. Eh bien, regardez, il a donné la preuve du contraire. Il a fait de ce festival quelque chose de très tendance, de très à la mode. Même quand on reçoit des artistes comme Nicoletta et Salvatore Adamo, qui peuvent être considérés par certains comme des artistes un peu passés, en tout cas, eh bien non, tout est dans le désir, tout est dans la justesse, l'enthousiasme et l'amour.
Merci Yvan
Cujus. Comme c'est vrai, Yvan. Eh oui. Bravo. Oui,
Yvan, qu'on retrouvera d'ailleurs demain, un mardi en direct de ces Francofolies de La Rochelle, même heure. À 20h, les annonces d'Emmanuel Macron à suivre en direct dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Et puis, on reviendra sur ces annonces avec Les Vraies Voix, avec Jean Dorido qui sera avec nous et nos invités. Et puis, plus près de nous, ce sont les routes de l'été, évidemment, présentées par Vincent Ferniaud. Ils arrivent, à tout de suite.